Question d'islam par Ghalib Ben Shir. Aujourd'hui, nous parlons de la notion de sainteté. En réalité, c'est un triptyque. La sainteté, le salafisme et la politique. C'est ce triptyque-là qui nous intéresse aujourd'hui avec Thierry Zarkon. Et je suis extrêmement heureux d'accueillir un éminent islamologue et un chercheur comme Thierry Zarkon. Bonjour.
Bonjour.
C'est vraiment une grande joie de vous avoir. Merci de nous donner de votre temps. Vous vous êtes intéressé à cette notion de la sainteté en islam et vous la traitez à la fois d'un côté de ce qu'ont fait les politiques au pluriel, que ce soit les hommes, les gens de la classe politique, que ce soit la politique, et aussi ce que nous appelons maintenant le salafisme. Vous êtes, cher Thierry Zarkon, historien, directeur de recherche au CNRS, vous enseignez à l'Institut d'études politiques à Aix, et vous êtes un fin connaisseur de la chose islamique. Alors, d'emblée, je soumets à votre sagacité une question qui nous a beaucoup taraudé par le passé. C'est que certains disent, mais la sainteté est très parcimonieuse, à la fois dans la révélation coranique, dans l'écrit coranique, que d'une manière générale, si je devais traduire le terme arabe, al-qadasa, qui renvoie plus ou moins à la sainteté, alors qu'en réalité, on voit les saints, vous dites si bien dans votre ouvrage que ce sont les amis de Dieu ou les gens vertueux, sont pratiquement omniprésents dans la culture populaire.
Oui, ils sont omniprésents même dès les premiers textes saints. Je veux dire, je pense par exemple au peuple de la caverne, donc qui s'est inspiré des sept dormants, donc des légendes chrétiennes. Ces saints, les amis de Dieu, donc se rapprochent de Dieu. Donc ils sont, et pour leur gloire, mais hélas pour leur malheur, on en parlera, des intermédiaires entre les hommes et la divinité. Et ils sont effectivement présents, et tant dans les textes d'ailleurs, ce qui en fait, à mon sens, loin d'être seulement une part de l'islam populaire, une partie aussi de l'islam savant. Donc ils sont présents et dans les textes et sur le terrain. Je crois que c'est le terrain souvent qui demande, enfin qui m'a encouragé à approfondir la question et à découvrir donc tous les enjeux et sociaux et politiques autour de cette pratique.
Est-ce par manque d'équivalence entre le français et la langue arabe, ou c'est parce que c'est la bonne traduction? Parce qu'encore une fois, la notion de sainteté, il y a en gros Al-Quds qui est Jérusalem, la sainte par excellence, ou Dieu qui est le saint suprême, ou parfois la notion de Jésus qui serait ou qui est celui qui scelle la sainteté, le scellement de la sainteté comme on le voit dans l'œuvre ou la doctrine du mystique Ibn Arabi. Mais comment se fait-il qu'on est passé des amis de Dieu, des gens vertueux, à ce qu'on les appelle en français saints, alors qu'en arabe, on ne les appelle pas le Qiddisin, par exemple?
Oui. Je crois qu'il y a beaucoup de termes, tant dans la langue arabe que dans les langues turques, persanes. Donc, ça passe des amis de Dieu aux réalisés. Par exemple, en turc, les érènes, ceux qui sont parvenus à quelque chose. Les termes sont très... Alors c'est vrai que pour les occidentaux en terre chrétienne, on découvre dans l'islam quelque chose qui existe aussi dans le christianisme, c'est-à-dire c'est la présence d'intermédiaires. Je crois qu'on utilise aussi le terme d'intermédiaire en chrétienté. Donc, et puis on se trouve aussi dans le cadre de religion abrahamique, hein, où de très nombreux éléments, non seulement sont communs, mais sont interprétés de manière différente, provoquent des conflits, mais en fait, on est dans un même, je dirais, même champ donc religieux, qui facilite la compréhension des uns par les autres.
Alors, nous le verrons tout au long de l'émission ensemble, cher Thierry Zarkon. Mais vous dites que pour leur malheur, c'est aussi... ils sont vénérés et considérés comme intercesseurs de Dieu. Mais d'un autre côté, nous verrons qu'ils vont être combattus. Elle est curieuse aussi, cette notion de truchement, d'intercession, de médiation, qui, in fine, chez les rigoristes, n'incombe au mieux au prophète, au mieux, sinon la relation est exabrupto et directe entre le croyant ou la croyante et Dieu. La relation est directe.
Oui, et en fait, c'est bon, la principale raison, je dirais, de ce statut plus qu'ambigu, donc très contesté et condamné en islam, statut du saint, c'est que justement, en mettant à l'avant le monothéisme, il fallait absolument supprimer les intermédiaires. D'ailleurs, bon, ce sont des choses, des thèmes contestés aussi. On a des hadiths, des propos du prophète qui vont dans le sens donc de l'intercession, d'autres qui sont contraires. Et naturellement, les opposants se battent autour de cette interprétation. Mais d'un autre côté, mettre à l'avant donc cette intercession serait en quelque sorte porter atteinte au monothéisme. Et c'est la raison pour laquelle on a souvent, ceux qui s'y opposent ont souvent accusé les chrétiens et les chiites, justement, d'avoir inspiré, donc, au bon sunnisme, cette idée d'intercession. Les chrétiens, parce que le Christ se présente comme l'intercesseur, l'intermédiaire par excellence, et les chiites, parce qu'ils vont donner une place importante de directeur, on peut dire, de guide de leur communauté, à la descendance du prophète. Donc, ils placent aussi des intermédiaires. Donc, c'est la raison pour laquelle, et là on peut le suivre jusqu'à aujourd'hui, les courants très radicaux, l'État islamique et d'autres, considérés comme principaux adversaires, pas seulement politiques, mais surtout sur le plan de l'idéologie, le christianisme et les chiites.
Alors pour que nous comprenions bien et pour que nos amis auditeurs nous suivent, c'est qu'en gros et très tôt, remontant même jusqu'à l'époque du prophète, on verra que cette notion d'élection de quelques-uns, des pôles spirituels qu'on appellera des saints, ont été présents, voire omniprésents. Et par la suite, on verra ensemble avec vous Thierry Zarkon à partir de quand, on se rendra compte que c'est une atteinte à la pureté du message monothéiste et donc qu'ils vont être combattus avec cette idée que l'intercession, la médiation, la direction de conscience est une sorte de, presque d'un associationnisme. Et de fait, comme le Christ est considéré comme un intercesseur et les imams et les descendants du prophète dans la doctrine chiite jouent aussi le même rôle, les rigoristes sunnites, sur le plan théologique et doctrinal, vont s'opposer violemment à ça. À partir de quand le tournant va surgir ?
On voit déjà, très tôt donc, dès le temps où se développe le hanbalisme, donc, qui deviendra une des écoles donc, juridiques en islam, on voit très tôt se...
On est en 855 si on date avec la mort d'Ibn Hanbal.
Voilà, donc on voit très tôt se dessiner les lignes d'une pensée donc, qui remet en question, donc, qui veut absolument intervenir sur je ne dirais pas sur les saints encore, mais déjà sur la manière d'enterrer sur les sépultures, donc araser les sépultures, ne pas avoir, éviter un culte des morts, donc... Et naturellement, la mise en garde contre les bid'ah, donc qui sont les innovations. Parce qu'en fait, le culte des saints, le fait de placer un intercesseur entre les hommes et Dieu est déjà une innovation non acceptée. Donc, et même à l'époque, toutes les innovations sont négatives. Il faut attendre. Voilà. Il faut attendre un petit peu pour voir apparaître l'idée d'innovation louable, donc qui ferait avancer la communauté. Donc avec cette innovation concernant le rôle d'intermédiaire, apparaissent toute une foule d'autres bid'ah qui sont liés au pèlerinage autour de ces lieux. Alors là, on peut les lister, ça va des imitations donc des pratiques qui se passent autour de la Kaaba, donc à la Mecque, avec les circumambulations, le tawaf, donc, et un grand nombre d'autres pratiques sur lesquelles on pourra revenir, qui vont jusqu'à le recyclage de pratiques dites païennes, de religions anciennes, reprises dans le culte des saints. Donc tout ça démarre avec le hanbalisme, ça va être d'une certaine manière fixé, consolidé, avec ce théologien néo-hambalite ou hambalite qui est Ibn Taymiyyah, et bon, ça va continuer beaucoup plus loin. Ça, je crois qu'on va l'aborder par la suite.
Oui, Ibn Taymiyyah, 1263-1328, est celui qui a exhumé ou ressuscité le hanbalisme après avoir connu une sorte de mise en veille. Et donc, par son rigorisme, par ses points de vue intransigeants, et à juste raison, si tant est qu'il me soit permis de parler comme ça, c'est vous qui soulignez qu'il a fait en sorte que ce qu'il considère être une innovation blâmable, le culte des saints, doit être combattu, en tout cas moins proscrit, par souci de préserver la pureté du message monothéiste. Mais avant d'arriver à Ibn Taymiyyah, entre la mort d'Ibn Hanbal en 855 et Ibn Taymiyyah au tournant du XIVe siècle, se développe donc cette tradition autour des tombeaux, des mausolées, parfois même de leurs vivants, et dans certains cas, ça rivalise avec le pèlerinage à la Kaaba. Ça n'a pas étonné ou en tout cas perturbé certains de voir des lieux de pèlerinage autres que celui de la Mecque qui est le pèlerinage central.
Vraiment, le développement de ce culte des saints va surtout se développer à l'époque de Ibn Taymiyyah et un peu après. C'est la raison pour laquelle Ibn Taymiyyah, en fait, se trouve avoir à lutter contre beaucoup plus d'innovations qu'à l'époque d'Ibn Hanbal. Et je ne dis pas, parce que dans les innovations, souvent, malheureusement, hélas, pour cette époque, c'est tout ce qui fait la richesse de l'islam. C'est le droit, c'est la philosophie, c'est la théologie. Or, toutes ces courants vont se développer dans le temps. Ce qui fait que Ibn Taymiyyah, finalement, va se découvrir un plus grand nombre d'ennemis qu'à l'époque du théologien Hanbal. Donc. Alors, il est vrai que de voir se développer en terre d'islam des lieux qui peuvent rivaliser avec les sanctuaires de la Mecque, dans les grands sanctuaires, pose problème. Mais ça ne pose problème, je pense, qu'un certain défenseur donc d'une vision vraiment stricte. Parce que tout au cours de l'histoire de l'islam, on va voir se développer ces lieux de substitution. Puisqu'on a des lieux en Asie centrale, par exemple en Inde, qui seront des deuxièmes Mecques, des Kabas du Khorasan. Et on l'a aussi avec les chiites, puisqu'on va avoir, par exemple, une Najaf du Sindh en Inde. On aura aussi une Kerbela d'Azerbaïdjan. Tous ces lieux de substitution, parce qu'on ne peut pas se rendre au pèlerinage, ou parce que, je crois que c'est un point important, je voudrais y revenir, le tombeau de saint propose une offre qui est un petit peu différente du lieu de pratique de sa religion, qui est la mosquée, ou de celui d'étude de la tradition de l'islam, qui est la madrasa. Parce que le tombeau de saint, et cela explique sa popularité et son succès, on vient là pour une intercession. Donc on vient là avec des demandes. Il y a une offre, donc guérison, carrière, retour d'affection, comme dans les maraboudes.
Bonne
donc
il y a quelque récolte. Chose.
Voilà. Ça veut dire qu'il y a un attrait qui est beaucoup plus important et qui explique en partie son succès et le lieu de mobilisation tout à fait extraordinaire que deviendront les tombeaux et qui intéressera les politiques et naturellement qui va, d'une certaine manière, horrifier donc les partisans d'un islam plus radical.
Alors vous avez abordé tout de suite les politiques, je pensais le faire un peu plus tard, mais je vous pose la question tout de suite. Les politiques auront une attitude polyvalente ou polymorphe ou ambiguë en tout cas. Tantôt ils domestiquent cette notion de sainteté, tantôt ils la combattent pour la période contemporaine, considérant que ça relève plus du charlatanisme et de la superstition, et tantôt ils s'en accommodent selon, enfin ils veulent séculariser la notion de sainteté, si j'ose dire, si ce n'est pas oxymorique. Et comment l'attitude de ces politiques a-t-elle été du temps d'Ibn Taymiyyah, allez, on va dire à partir du XIVe siècle jusqu'à nos jours?
Moi j'ai essayé de clarifier la question, d'abord en distinguant les politiques. Bon, on va avoir des politiques en islam qui sont là, des personnes qui vont, avec plus ou moins de souplesse, essayer de rester fidèles donc au message du Coran et des traditions et des écoles juridiques. Plus tard, on aura aussi des politiques séculiers, qui seront soit des marxistes, soit des kémalistes, etc., qui vont avoir des politiques différentes. Cela dit, les postures, moi, je les ai ramenées en fait à trois. La première est ceux qui veulent absolument se débarrasser du culte des saints et qui vont détruire. Donc l'État islamique ainsi que d'autres
de nos jours, pour la période contemporaine.
Mais pour les époques anciennes, on a eu aussi des mouvements qui ont été très durs, ne serait-ce que le wahhabisme, qui est une autre manière radicale de lire un certain salafisme, puis d'autres groupes. Les deux autres postures, ce sont l'une est de tolérer, mais de réguler en réformant. Et il y a une espèce de salafisme doux derrière cette attitude, ce que j'ai expliqué. C'est-à-dire, on peut réformer en essayant d'admettre certains aspects du culte des saints, mais en corrigeant par rapport à la tradition salafiste, mais avec souplesse. Et la troisième, c'est celle au contraire, qui est de patronner le culte des saints, de l'apprécier, de le défendre, tout en l'instrumentalisant quand même, en lui faisant servir un certain nombre de visions politiques, se rapprocher des populations, asseoir un pouvoir politique, ou tout simplement l'utiliser avec le soufisme, entre guillemets, qui est toujours très lié au culte des saints, contre les formes radicales qui ont des velléités politiques, des prétentions politiques.
C'est là où vous dites que le prince, allez, les politiques, que ce soit à travers l'histoire, on verra pour la période contemporaine, ont voulu, ayant compris l'ascendant qu'il y a sur la population, ont géré, voire dans certains cas, voulu patronner ou parrainer en tout cas ces différentes manifestations autour des mausolées, autour des tombeaux des saints. Mais qu'en est-il lorsque le saint était encore en vie et de son vivant? Parfois, il paraissait comme un rival pour le prince.
Oui, alors là, c'est le grand problème, puisque quand on dit le saint, ce n'est pas toujours un saint défunt dans son tombeau, puisque les chers soufis sont considérés comme des saints vivants. Alors là, effectivement, se pose le problème de la rivalité. On sait par exemple que des grands saints comme Mevlana Celaleddin Rumi étaient considérés aussi comme un sultan. Le sultan, Sultan Imanevi, donc le sultan spirituel, celui qui... Donc effectivement, est-ce que ce sultanat-là ne menace pas le sultanat temporel? Bon, on le connaît dans l'histoire du Christ aussi. Mon royaume n'est pas de
ce monde.
Mais il y a eu des inquiétudes quand même pour celui qui se prétendait roi de quelque chose. Alors, on a ça en islam, effectivement. Les politiques ont toujours, même s'ils ont patronné, soutenu ou toléré le culte des saints, ils ont toujours maintenu une certaine distance. Et ils ont toujours, naturellement, ils sont toujours employés à éviter que le saint ne vienne, ne développe un pouvoir temporel. Même si, on le sait, certains grands tombeaux avaient une puissance économique extraordinaire. Principalement dans le monde chiite, bien sûr, mais dans d'autres lieux. Et c'est une des raisons pour lesquelles, par exemple, le réformiste Atatürk, parce que Atatürk n'a jamais interdit la religion, Atatürk a immédiatement saisi tous les warf, donc les biens de main morte, la puissance qui fait l'assise économique de toutes les institutions religieuses, dont les tombeaux, les confréries soufis, les madrassas, les tribus d'ondes islamiques, etc. Donc on sait qu'il y a une puissance économique importante, et donc qui dit puissance économique dit automatiquement possibilité d'un jeu, d'une rivalité politique.
Alors nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam. Aujourd'hui nous parlons de sainteté en contexte islamique, en lien avec le politique et le salafisme, avec Thierry Zarkone, historien, directeur de recherche au CNRS. Pour cette deuxième partie, Thierry Zarkone, l'attitude contemporaine, on est dans la période du XXe siècle et même maintenant, ce qu'a fait Mustafa Kemal, Atatürk et d'autres, c'est plutôt de s'opposer à ce culte des saints, parce que d'abord il vaut mieux alléger ou libérer l'esprit du peuple d'une certaine aliénation, d'une certaine superstition, et puis à une captation des richesses de ce qui est lié au saint.
Dans les visions, je dirais, politiques des chefs d'État, donc, qu'ils soient très religieux ou un peu moins, donc, il y a toujours cette idée que le culte des saints, d'abord pour représenter un danger religieux, parce que il met en péril une certaine, je dirais, marque forte de l'islam, qui est le monothéisme. Mais aussi, lorsqu'on est plutôt un moderniste, il incarne la superstition. Donc, il n'incarne pas l'islam de la raison, celui que dont rêvait Atatürk. Et surtout, il développe une certaine ignorance qui peut conduire au fanatisme. Donc, à un certain danger de soulèvement, etc. C'est souvent ce qui a été mis à l'avant, non seulement par Mustafa Kemal, mais également par les marxistes en ex-URSS, et également aussi par le pouvoir chinois dans les zones musulmanes de la Chine populaire. Donc, on voit ces différentes formes de danger dans leur esprit, et la nécessité pour eux donc d'intervenir, donc de neutraliser ce culte, ce qui ne signifie pas le faire disparaître, dans le cas par exemple d'État marqué vraiment par un wahhabisme très très violent, donc pas de le faire disparaître, le neutraliser, voire ensuite à essayer de le récupérer. C'est la raison pour laquelle, dans la Turquie d'Atatürk, on interdit le culte des saints et on ferme les tombeaux en 25, mais on va les rouvrir en 49. En faisant attention à ce que le rituel ne soit pas trop démonstratif, en conseillant les pèlerins de ne pas se livrer à certaines pratiques, et parfois même, c'est d'ailleurs ce que j'ai appelé dans cet ouvrage un salafisme doux, en déconseillant de demander de l'aide aux saints. Ça veut dire qu'on essaie, tout en gardant ce rituel, de faire disparaître la dimension d'intercesseur du saint. Et on va même aller plus loin, à faire de certains saints qui sont des grandes figures poétique, d'un islam entre guillemets humaniste, on en fait ce que j'ai appelé des saints-nations. Donc à l'état-nation, un saint-nation. Et on retrouve cette idée de saint-nation également en Asie centrale, dans les années 2000-2010, et même donc au Turkménistan, donc toujours Asie centrale, au Pakistan également. Un saint qui va incarner un idéal un petit peu religieux, humaniste, généralement toujours doux donc de la population et du pays.
C'est ce que vous appelez une sorte de sacralité confisquée, ou du moins un accompagnement, ou une gestion comme ça, presque une... Moi-même ai dit que c'était une domestication, mais en tout cas au profit du politique.
Ah oui, alors je crois que les cas les plus extraordinaires, je n'ai pas vu ailleurs, sauf au Pakistan. Où vraiment, alors, les politiques pakistanais sont des musulmans. Donc, ils croient au saint. Mais ils savent qu'il faut donc agir avec une certaine mesure. Ils sont allés jusqu'à conseiller. Alors certains politiques même l'ont fait, et ils ont poussé des hauts fonctionnaires de l'État à des moments précis de grandes cérémonies où le chef religieux, le cher généralement, va laver la tombe et un petit peu la décorer avec des fleurs, donc ce qui lui apporte une sacralité extraordinaire. Ben cet acte qui sacralise, ce sont des hauts fonctionnaires et même des chefs de l'État qui le font. Ça veut dire qu'il y a ce que j'ai appelé une captation de sacralité, naturellement l'acquisition d'un statut au regard de la population tout à fait exceptionnel, et qui s'est poursuivi encore jusqu'à présent au Pakistan dans certains cas.
Il y a d'autres États qui nationalisent, si je puis dire, en tout cas étatisent ce sentiment général ou populaire autour des saints. Comme on le dit souvent, quand il y a une collusion entre le politique et le religieux, ça travaille toujours le politique, jamais l'élévation spirituelle. Oui. C'est pour des intérêts politiques, finalement.
Tout à fait. Ouais. Pardon, moi, j'étais en Asie centrale, donc peu après la disparition de l'URSS. Donc j'ai vu, pendant 2 ans en Ouzbékistan, comment se construit l'identité nouvelle. Et comment l'islam, qui a été rejeté, honni, etc., intervient à nouveau et est utilisé dans cette fabrication, donc, de l'ouzbek ou du kazakh moderne. Et il y a eu des opérations, très, très grand public, donc, de réhabilitation de grands saints soufis. Ahmed Yassavi, qui est la grande figure, donc, au Kazakhstan, mais Bahouddin Nakhchband, qui est au contraire celle, donc, de l'Ouzbékistan. Et dans le cas de ces réhabilitations, on corrige le personnage. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils correspondent, on pourrait dire, aux nouveaux citoyens du pays. Donc, Ahmed Yassavi, qui a, dans sa vision soufie, encouragé la retraite, donc le retrait du monde, la vie dans des cellules de méditation pendant des années, etc., ça on fait disparaître. Parce que le citoyen modèle ne doit pas échapper à son devoir civique, donc il doit être présent dans le monde. Donc on voit une correction. Pour ce qui est de Bahouddin Nakhchband, on le rend au contraire très proche de l'État, louant le travail, bien dans le monde, parce qu'il y a un rejet un petit peu de la retraite, je sais pas, du Nakhchivan. Mais surtout, on évite de montrer sa très très grande fidélité à la loi de l'islam, parce que bon, l'État ouzbek est un État quand même séculier, qui ne veut pas. Alors, donc, on corrige aussi à ce niveau-là, mais dans les deux cas, ces deux personnages deviennent des saints-nations, corrigés, revus.
Et qu'en est-il du côté occidental du monde musulman, par exemple au Sénégal, avec les mourides et le calife, comme on dit, je le prononce à la manière de, comme ils le disent, avec cette doctrine en trois temps, l'adoration de Dieu, le travail et être au service de... L'État sénégalais, si je prends cet exemple-là, s'accommode de ce qui se passe autour des mourides, où il les utilise ou pas, où il leur laisse une certaine émancipation.
Par rapport aux mourides, naturellement, l'État est très, pas réservé du tout. Au contraire, il tient absolument à s'associer et être soutenu par le mouvement. Il faut voir que le mouvement est tout à fait extraordinaire. Donc il y a des ramifications en Europe, aux États-Unis aussi. Donc effectivement, ce lien de cette spiritualisation de l'acte, du travail, est étonnante. Mais ça va dans cet esprit. Et surtout, le plus extraordinaire, c'est la fabrication de la ville de Touba, à partir d'un lieu qui était tout simplement le lieu de méditation, de retraite du fondateur du mouvement, qui a donné une cité conçue selon la spiritualité, et qui a même, on l'a vu, obtenu une certaine autonomie en tant que ville et district. Donc on a vraiment là la construction d'un espace totalement, sous l'inspiration de la sainteté, en quelque sorte.
Oui, Thierry Zarkon, avec tout ça, on voit qu'il y a une sorte de résistance de fait contre les mouvements wahhabites qui finalement, avec beaucoup d'outrance et d'excès, ont voulu raser, anéantir toute trace, y compris de l'histoire, des vestiges, des premiers temps de l'islam, en Arabie, un peu loin quand... cette doctrine a essaimé. Doit-on le regretter maintenant? Enfin, les musulmans de nos jours, dans ces régions, regrettent-ils qu'on ait comme ça anéanti ou rasé les tombeaux des saints?
Alors, dans certains cas, il y a beaucoup de regrets, parce que le saint est quand même celui qui protégeait. On connaît même certains lieux, que ce soit au Moyen-Orient ou en Asie centrale, où la population se souvient du mausolée qui se trouvait à tel endroit et qui a été détruit. Mais la sacralisation, elle reste. La sacralisation, elle ne marque pas que l'espace. Elle marque aussi le non-espace, on pourrait dire, équivalent au lieu. Ça veut dire que la terre qui est là, le moindre arbre, etc., est sacralisé. Donc on pourrait reconstruire quelque chose sur ce même endroit. Maintenant, il est vrai que dans certains cas, moi, j'ai pu le constater, par exemple, avec la disparition du marxisme et de l'URSS. On se rend compte, et de la même manière, dans l'ex-Yougoslavie.
Et en Albanie.
Et en Albanie en particulier, les premières formes d'islam qui se reconstituent, et très rapidement, ce ne sont pas les confréries soufis. Dans certains cas, oui, comme au Caucase, par exemple. Mais généralement, c'est le culte des saints. Ce sont les anciens tombeaux qui avaient été convertis en musée de l'athéisme ou en école qui retrouvent tout à fait leur fonction. Par exemple, à Boukhara, donc le grand saint d'Asie centrale et de toute l'Asie, Baoudi Nakhchband, c'est extraordinaire de voir. J'y étais entre 94 et 95, donc 3 ans seulement après les indépendances, le culte avait redémarré. Avec toutes les pratiques autour des armes sacrées, le tawaf autour du tombeau, c'est tout à fait extraordinaire.
Le tawaf étant la circumambulation, en quelque sorte, c'est une sorte de retour du refoulé.
On pourrait l'interpréter de cette manière-là, oui. Mais il a toujours été... le culte des saints s'est toujours maintenu, mais s'adapter aux situations. Par exemple, en Turquie, Mustafa Kemal a fait fermer les mausolées, mais les mausolées étaient là, on ne les a pas détruits. Alors, que faisaient les fidèles? Quand ils avaient une doléance, un besoin, une demande d'intercession, au lieu d'entrer comme autrefois dans le mausolée, de s'approcher du tombeau, d'embrasser le tombeau, de le toucher, ils allaient tout simplement fixer une bougie sur la fenêtre extérieure. C'est-à-dire, d'une manière ou d'une autre, le lien au sacré se maintenait. Par des, vous savez, comme on dit, le sacré arrive toujours à passer, là.
Même s'il est dilué comme ça, mais en tout cas, il arrive à passer dans des interstices. Qu'en est-il en Afrique du Nord ou dans certains cas, peut-être le cas algérien, à un moment donné, le pouvoir a donné même de l'argent et a encouragé certaines confréries soufis. On s'éloigne peut-être un tout petit peu de la question de la sainteté pour contrecarrer le radicalisme islamiste. C'était aussi une forme de contre-prêche, de contre-discours, comme disent certains.
Oui, alors c'est vrai que dans le cas du Maghreb et de l'Algérie, on a connu une époque ancienne où bon, le tombeau, le marabout comme on l'appelait, on donnait le nom à l'édifice, de même qu'à celui qui était chargé parfois de l'administrer. Bon, c'était quand même, ça incarnait une certaine ignorance, un islam populaire que l'on regardait de loin, etc. Même s'il ne l'est pas, parce qu'il y a quand même un lien, la sainteté est exposée dans des grands textes. Et par la suite, c'est vrai qu'on a pu, bon, il y a eu une opposition, on pourrait dire, salafisante à très forte, avec des personnages comme une Badis, par exemple, donc qui ont, de manière très précise, se sont opposés au culte des saints. Mais lui a quand même a trouvé un opposant tout aussi puissant avec le Shir Alaoui, par exemple, qui lui les défendait, tout en gardant une certaine vision moderne, défendait quand même cette vision. Alors, il est vrai que le politique, en Algérie, a compris à un moment qu'il fallait non seulement protéger cet héritage, qui liait d'ailleurs du reste au soufisme aussi, hein, pour la Zawiya et le tombeau de saints sont en lien. Il fallait les protéger. D'abord, c'est un héritage, c'est une grande richesse, et en même temps, il peut servir de rempart à certaines formes de radicalisme. Alors là, on a beaucoup développé cet aspect, donc le soufisme comme rempart contre le radicalisme, ça s'est fait aussi en Ouzbékistan, au Pakistan, dans d'autres pays, avec un danger de, malheureusement, d'instrumentaliser le soufisme et de lui faire dire des chose qu'il n'a pas dit, parce que il y a plusieurs soufismes, ça, il faut le dire, il y a des formes qui vont de la... Il y a des soufismes très proches de certaines formes de radicalisme salafiste, et d'autres au contraire, qui sont sur les marges, on pourrait presque dire, de l'islam, donc ça dépend comment on le prend. Mais il est vrai que le Maghreb, d'une manière générale, est d'une immense richesse au regard de ses tombeaux, de ses traditions, de ce folklore, entre guillemets, qui peut s'interpréter aussi par des islams savants. Et je crois que c'est un champ qui reste encore à explorer. On a ce magnifique livre qui avait un petit peu lancé la recherche de Dermenghem, qui est un livre qu'on peut encore lire et relire et toujours relire. Mais je crois qu'il ouvre des champs, donc des perspectives de recherche nouvelles tout à fait extraordinaires, montrant la richesse donc de ces traditions.
Thierry Zarkon, là nous voyageons de la Chine occidentale jusqu'au Maghreb et l'Afrique occidentale aussi, en passant par l'Asie centrale. Maintenant, à l'évocation de Sherpen Badis, qu'en est-il du réformisme islamique à la jonction, à la charnière du 19e-20e siècle? Les oulémas, comment percevaient-ils cette idée de sainteté? Ils n'ont pas été peut-être, me semble-t-il, je vous pose la question, jusqu'à l'excès d'un Ibn Taymiyyah ou du wahhabisme, mais ne l'ont-ils pas non plus, pas dénoncé, mais au moins voulu atténuer son impact parce qu'on considère qu'il vaut mieux laisser place à un islam savant qu'à un islam populaire de dévotion?
Oui. Alors moi je vois, je dirais, trois positions, je dirais, dans ce qu'on pourrait appeler le courant salafiste. Il y a des positions au départ donc d'une Tamiya, bon, qui sont, c'est vrai, on peut dire extrêmes, mais avec une certaine ouverture, un certain soufisme, un certain culte des saints. Pour lui, le tombeau ne doit pas être détruit. Il ne faut pas aller et demander aux saints de jouer un rôle d'intercesseur. Il faut être et prier pour lui. De la même manière, il y a entre guillemets pour lui un soufisme acceptable. Après, on a des formes vraiment radicales, qui sont celles que développe le wahhabisme, donc, qui est une forme de salafisme très dure, radicale, destructeur, qui seront reprises par d'autres courants à notre époque.
Enfin, les talibans ou l'organisation terroriste dite voilà. État islamique.
Toutes celles qui sont liées à ce mouvement-là, on a ça. Et puis alors, c'est vrai qu'avec le réformisme, qui s'intéresse à une certaine forme de salafisme, parce que le réformisme musulman à partir de Jamal al-Din al-Afghani, Avdou jusqu'aux frères musulmans, donc il y a la vision quand même de remettre en valeur un certain nombre d'enseignements anciens, de faire un retour à des périodes, à un âge d'or qui est celle des salafs. Mais par exemple on le voit avec Abdou va plus loin, lui il refuse de tout rejeter et de faire un retour total. Lui, pour lui par exemple Al-Razali doit être intégré parmi ces personnages, alors que le pur salafisme, d'une manière générale, va encore plus loin, n'accepte pas Al-Razali, par exemple. Donc, il y a une ouverture plus grande, je dirais, dans ce réformisme, avec aussi, naturellement, au nom d'une certaine modernité, parce qu'il faut essayer de trouver un accord avec la modernité, le rejet de toutes ces pratiques. Alors, on l'a vu, surtout, naturellement, avec des personnages comme Rza, ensuite, donc, et puis... Mais, par exemple, les frères musulmans avec Banna sont plus souples, il y a une influence, une certaine forme de confrérisme qui peut les rapprocher. Mais néanmoins, le culte des saints, apparenté pour eux un islam populaire, reste quelque chose qu'il faut absolument neutraliser ou faire disparaître.
Y compris pour Hassan al-Banna, ou c'est une manière de récupérer, là aussi, ou de capter cette dévotion populaire?
Alors, il peut y avoir aussi une captation pour instrumentaliser. On le voit, par exemple, au Pakistan avec Maududi, qui aussi incarne un islam politique très fort. Il a été, au début, très très opposé au culte des saints et au tombeau. Puis par la suite, il comprend que ces lieux sont d'une telle puissance de mobilisation des populations qu'il faut absolument y aller, être présent, s'entendre, expliquer, corriger, mais néanmoins ne pas de manière violente donc condamner.
Alors pourrait-on dire qu'il s'agit d'une salafisation du soufisme et par-delà de ce culte des saints, ou une spiritualisation du salafisme?
Alors moi j'ai développé l'idée d'un soufisme salafisant qui explique que certaines... Alors ce soufisme salafisant, il est très ancien. Il démarre avec les deux grands disciples soufis d'Ibn Taymiyyah, qui sont Al-Jawziya et Al-Wasiti, qui vont faire école ensuite. Et ce qui permet de cette manière de voir comment il va se développer. Alors il se développe de quelle manière? Il va même diviser le soufisme d'une manière générale, cette vision de soufisme salafisant. Il faut absolument éliminer l'idée qu'un shir vivant, un shir soufi, donc un saint vivant, serait un intercesseur. Le grand problème, il est là. Il doit devenir un directeur spirituel.
Et pas un directeur de conscience.
Il pourrait, à la rigueur. Il pourrait, si... Mais il n'est plus un intercesseur. C'est un cher éducateur. Un de mes collègues spécialistes soufis américains l'avait interprété ainsi. Un cher éducateur. Et surtout, ce soufisme salafisant, naturellement, il ne doit pas cultiver le culte des saints, le culte des tombeaux. Il ne peut se rendre sur un tombeau, le tombeau d'un de ses chers défunts, que pour prier pour lui. Et absolument pas pour lui demander d'intercéder. Cela dit, je crois qu'il faut faire une parenthèse importante. Dans la démarche d'un pèlerin sur un tombeau, il y a deux actions. La première, donc, principale des populations en général, c'est la demande de doléances, la demande d'aide, d'intercession de toute espèce. Mais le soufi, lui, certains soufis vont demander aux saints défunts de leur apporter une guidance spirituelle outre-tombe. Donc là, c'est une autre démarche qui est plus spirituelle, qui montre qu'il n'y a pas... On a souvent critiqué le culte des saints en indiquant qu'il n'a qu'un intérêt pratique. Là, il a aussi un intérêt spirituel très fort. C'est la demande, une demande venant d'outre-tombe, d'une guidance, d'une direction, d'un conseil spirituel.
Et donc pour vous, c'est plus un soufisme salafisant qu'un salafisme spiritualisé, si j'ose dire, ici ce n'est pas oxymorique.
Alors, l'idée, on pourrait dire, de salafisme soufisant, dans notre sens, elle sait, je pense qu'on peut, je pense l'avoir décelée au Soudan. Parce que dans cet état islamique, le Soudan, pendant plus de 30 ans, je crois, cet islamique, c'était surtout, c'était pas un état wahhabite ou un état du type taliban, c'était surtout l'idéologie des frères musulmans qui dominait. C'était le fameux Hassan al-Turabi.
Voilà. Oui.
Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que cette idéologie, lui, n'a pas formellement interdit le soufisme, ni le culte des saints, mais il les a absorbés. C'est-à-dire, dans son esprit, il a dit, voilà comment il faut corriger le soufisme et le culte des saints pour qu'il soit acceptable dans une doctrine de type réformiste, liée, de certaine manière, à une forme de salafisme. Il dit, oubliez les confréries. Ça, c'est un problème. les chairs, les directeurs, les rites, etc. Vous oubliez tout ça, vous faites un retour au soufisme des origines, au soufisme du 8e et 9e siècle. Donc, c'est une espèce, presque on pourrait dire, de salafisme soufi. On fait retour au salaf soufi d'une époque. C'est un petit peu la démarche.
Alors, nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam. Aujourd'hui, nous parlons essentiellement de la sainteté dans les contextes islamiques, mais en lien aussi avec comment le politique gère cette notion-là et aussi avec l'autre borne ou l'autre bord qu'est le salafisme, avec l'historien Thierry Zarkon. Et c'est avec un grand plaisir que nous poursuivons notre entretien. Pour cette dernière partie, cher Thierry Zarkon, on verra que cette notion de sainteté, du culte des saints, de la présence des saints, n'est pas uniquement dans les contextes, les contrées, les lieux et les sociétés de l'islam, c'est aussi dans d'autres endroits plus sécularisés, même très peu attendus, comme ce que vous dites, la présence du saint musulman qui s'installe en Occident. Comment avez-vous perçu cela et comment tout cela a-t-il émergé? Ça sous-entend simplement qu'il y a une sorte de souche qui est prise en Occident par les musulmans, auquel cas il y a même leurs saints.
Je savais, même si je ne suis pas un spécialiste de ces questions, que les diasporas musulmanes en Occident, que ce soit en Europe ou en Amérique par exemple, naturellement, ont développé aussi des confréries soufis. La plupart des confréries soufis existent dans ces pays. Donc, et naturellement, qui dit confrérie soufie, dit cher soufi. Donc, saint vivant. Même si la sainteté aujourd'hui, bon, je me souviens d'un propos d'un cher soufi turc qui disait aujourd'hui les saints ne se déplacent plus sur des tapis volants comme à notre époque, etc. Donc, les choses sont reconsidérées. Mais dans l'esprit de nombreuses personnes, un cher soufi, quand même, c'est un personnage tout à fait exceptionnel, capable de faire des miracles. C'est aussi la compétence du saint. Donc. Alors, la question que je me suis posée, c'est est-ce que on a maintenant des tombeaux de saints soufis? Est-ce que le saint défunt s'est installé en Occident? Alors, finalement, les diasporas ne sont pas là depuis suffisamment de temps pour que des chers aient passé une vie entière et désiré à la fin, peu avant leur mort, de reposer dans cette terre de diaspora. Souvent, généralement, les chers soufis demandent à être inhumés dans le lieu où ils sont nés, par exemple, où ils ont passé la plus grande partie de leur vie. Mais depuis quelque temps, je l'ai constaté dans plusieurs pays, on a commencé à bâtir des mausolées. Alors c'est l'édifice à coupole classique. Tous ne sont pas très intéressants. Si la communauté n'est pas très importante, la communauté musulmane, comme par exemple en Argentine ou aux États-Unis, il ne se développe pas quelque chose un culte des saints complet, je dirais, autour de ce lieu. Ou parfois, ce sont surtout les convertis qui sont là et qui naturellement modifient à travers leurs propres demandes, leur propre culture, l'islam. Et en font, on peut dire, un culte un peu pérennialiste, un peu New Age. Ce qu'on a surtout aux États-Unis. On a eu en France le cas d'un cheikh africain, donc de la confrérie Amalia, qui a été inhumé, mais ce culte pourrait se développer, mais il a du mal à démarrer. En revanche, je crois que les cas les plus intéressants se trouvent au Royaume-Uni, où on a une communauté musulmane pakistanaise extrêmement importante, avec des chirs de l'ordre Naqshbandi, liés au grand courant Baraloui, donc, qui est un courant de l'islam qui défend justement le culte des saints et le confrérisme. Un de ces groupes a déjà bâti le mausolée de son saint, qui a voulu demeurer en terre, donc en terre non musulmane, on peut dire. Et un autre, extrêmement important, est en train de se faire. Ça se passe dans la communauté de Birmingham. C'est la raison pour laquelle j'ai fait, au moment où j'écrivais cet ouvrage, un terrain pour voir ça de plus près, pour discuter avec des acteurs, pour voir la construction de ce mausolée et pour lire, naturellement, les oppositions qui naissent dans les groupes. Alors, la Deobandi, intéressé par un soufisme aussi, mais néanmoins très critique du culte des saints, et dans les groupes salafistes pakistanais, tout aussi importants dans cette région de Birmingham. Avec naturellement la question, le risque de conflit. Donc d'importer des conflits autour du culte des saints dans cette région.
Un conflit intra-islamique.
Un conflit intra-islamique aussi. Alors de l'autre côté, ce qui est intéressant, c'est au niveau culturel. Parce que certains des partisans de ce culte, donc des personnes qui apprécient ce soufisme, qui ont beaucoup apprécié ce saint, défunt maintenant, quand il était vivant, pour eux, c'est une prise de possession du territoire, en quelque sorte, avec l'installation d'un tombeau de saint. On pourrait presque dire qu'une petite partie de ce qui était, entre guillemets, comme on dit, une terre de combat, donc un Darul Darb, donc quelque chose, devient un Darul Islam, en quelque sorte. C'est-à-dire une zone très marquée.
Pour nos auditeurs, cette notion juridique, ou chez les jurisconsultes, il y a le domaine de la guerre qui serait le lieu où l'on ne peut pas pratiquer sa religion, on ne peut pas prier et jeûner. Et la Darul Islam, le lieu de l'islam, ou le domaine, ou la maison de l'islam, c'est le lieu où, au moins, on peut pratiquer sa religion. Et donc, de ce fait, et avec ces mausolées qui naissent, si j'ose dire, qu'on bâtit, on est de fait dans le contexte de la maison de l'islam.
Tout à fait. Et alors, on pourrait presque se dire, oula, donc ça veut dire qu'en tant que non-musulman, par exemple, on peut se sentir étranger ou autre. Eh ben non, il y a une hospitalité. J'ai eu des facilités qui m'ont été données pour aller sur le lieu, qui est quand même un lieu saint, où se bâtit ce tombeau, à côté d'une grande mosquée, donc dans un secteur contrôlé par des musulmans pakistanais, portant la barbe, habillés de manière très traditionnelle, mais une ouverture, une souplesse, une facilité, donc, qui est extrêmement importante. Donc ça montre quand même que cet islam des saints, même s'il est sous le contrôle d'une confrérie assez rigoriste, je parle de la Naqshbandiya quand même, est quand même en même temps extrêmement ouvert. Mais il est vrai que dans des librairies, dans le même quartier, un petit peu plus loin, librairie salafiste, j'ai pu lire des textes assez violents.
Et pour l'instant, la coexistence se fait.
Elle se fait. Les oppositions, je dirais que les débats un peu vifs se passent surtout sur Internet, par livres interposés. Lorsqu'ils font des processions, parce que ce culte des saints, naturellement, a une demande de visibilité très importante. C'est pas uniquement la pratique de la circumambulation autour du mausolée. On a, au moment de la fête du saint, des processions avec déplacement de bannières, tout un ensemble de pratiques qui parcourent le territoire. Et dans le cas de Birmingham, on a ces processions qui se déplacent dans le quartier musulman de la ville. Alors, parfois mal accueillis par les populations qui sont opposées, travaillées par les idées salafistes. Mais il n'y a jamais eu d'action violente jusqu'à ce jour.
Des populations musulmanes.
Populations musulmanes pakistanaises, bien sûr.
Alors, j'ai lu que vous parliez à un moment donné que le saint musulman en terre chrétienne pourrait être piégé. Ici, la notion du piège, c'est parce qu'il y aurait peut-être des éléments christianisants ou on est dans un autre contexte simplement.
Oui,
c'est
non.
Pour comprendre.
Oui. Non, j'utilisais le terme piégé, c'est-à-dire qu'il est piégé par ce choix de la migration. En fait, il est piégé parce qu'il est ici, parce que ses enfants sont là, ses enfants vont être éduqués ici, ses enfants ne veulent plus retourner, et lui se dit mon corps va retourner là-bas, et la terre que j'aurais pu sacraliser, ben je ne la sacraliserai pas ici. Donc c'est un peu cette idée du piège.
Parce que d'aucuns disent, mais ça nous fait sortir un tout petit peu du sujet, c'est que la notion même de diaspora n'a pas beaucoup de sens. Qu'est-ce un islam diasporique si il a une prétention à une vocation universelle? Donc, où que l'on se trouve, c'est la mosquée de Dieu ou c'est là où qu'on trouvera Dieu? en tout cas au moins dans une approche théologique, de la terre entière comme le lieu de la prosternation et de l'adoration de Dieu. Nous nous approchons un tout petit peu, petit à petit, de la fin de notre émission, cher Thierry Zarkon. Que reste-t-il de cette notion de sainteté dans le lieu où il a été combattu le plus, en Arabie Saoudite par exemple, ou dans les régions où le wahhabisme a prévalu?
Alors, par exemple, en Arabie Saoudite, il est vrai que avec la constitution du royaume d'Arabie Saoudite, bon, il y a eu un assouplissement quand même de la folie destructrice, donc on peut dire des théologiens salafistes. Il y a eu, mais néanmoins, on a maintenu une politique quand même toujours qui était la même, et on n'encourage pas la construction de tombeaux de saints. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de polémiques autour du tombeau que les partisans du culte des saints considèrent comme étant paradigmatique, celui du tombeau du prophète à Médine. Parce que les théologiens mettent souvent à l'avant ce hadith qui indique qu'on ne peut pas prier, donc constituer une mosquée, dans un lieu où se trouve un tombeau. C'est la raison pour laquelle certains ont voulu séparer le tombeau du sanctuaire, de la mosquée, même si on sait que dans l'histoire, en fait, tout simplement, c'est que le prophète s'est fait enterrer à côté de sa maison, qui ensuite est devenu un grand sanctuaire. Donc il y a ce conflit toujours qui existe, cette velléité à un moment de vouloir détruire, les théologiens voulaient même détruire le sanctuaire, ce qui a été naturellement vite repris par les politiques, qui eux font attention quand même aux excentricités ou aux exagérations des théologiens. En indiquant qu'on ne touche pas, parce qu'ils savaient l'impact que cela aurait pu avoir dans le reste du monde musulman. Maintenant, concernant... Alors, on a vu en Irak ce qui s'est passé avec les destructions de sanctuaires de manière extraordinaire. On l'a vu aussi en Afghanistan, même si en Afghanistan, les choses sont plus difficiles dans la mesure où l'islam afghan est un islam qui est pénétré par le culte des saints. Ils ont été un petit peu déformés par Al-Qaïda, par ces groupes-là, mais ils ont toujours ce besoin des saints. Alors, maintenant, l'avenir, avec le retour des talibans, on va voir dans les années qui se passent ce qui va se produire. Donc.
Oui, et ce que vous avez appelé à juste raison un crime contre la culture et j'ajouterai contre la spiritualité. Merci infiniment, merci cher Thierry Zarkon de nous avoir instruit sur cette notion très peu connue, voire méconnue, de la sainteté en contexte islamique. Les saints, les amis, les gens vertueux. Il y a aussi les saintes, nous n'en avons pas parlé, mais peut-être que vous viendriez, si vous voulez bien, nous donner de votre temps pour en parler. Il y a même le mémorial des saintes, ça sera pour une autre émission. Chers amis auditeurs, c'était Question d'Islam, et vous retrouverez l'émission comme toutes celles de la chaîne sur le site de France Culture, et vous pourrez la podcaster et la réécouter sur l'application Radio France. Vous retrouverez aussi les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. L'attaché d'émission est Thierry Beauchamp. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Titian Oex. Et la réalisation est assumée par l'ami François Connac.
La ilaha illallah.